Chapitre 10. Suite de la terrible aventure. L'écho de cette jeune voix fervente, coupée d'un sanglot, vibra dans l'oreille et dans le cœur de Pierre Royat, qui se mit en route, plein de courage et d'espoir. Son entreprise était assez périlleuse pour absorber toutes ses facultés. Comptant les marches, rasant le rocher à sa gauche, il arriva sans peine au sommet du rude escalier. La mémoire instinctive des lieux qui s'était développée en lui depuis sa cécité et son sens de direction lui faisaient reconnaître son chemin comme s'il l'avait vu. Il se demanda s'il ferait bien d'appeler Lucette en criant pour lui faire savoir que la première étape était franchie. Ils auraient dû convenir d'un signal. Il craignait de la faire tressaillir. Il comprenait combien la situation de la jeune fille était précaire sur cet étroit rebord. Maintenant, il avait devant lui le mauvais sentier à pic, avec des buissons d'un côté et une marge d'herbe sèche de l'autre, et, au-delà de la marge d'herbe, le danger. Il importait surtout de suivre les buissons. Deux fois, un petit tournant trompa Pierre, qui allait tout droit devant lui et qui tomba dans le fourré. Alors, il se mit à tâter le sol avec ses mains pour retrouver la terre foulée et les cailloux du sentier. Chose étrange, pas un instant il ne fit de retour sur sa cécité. Il ne se sentait pas aveugle, il avait l'impression d'être un voyageur égaré dans la nuit et qui fait appel à tous ses instincts pour découvrir sa route. Naturellement, ce fut long. Le sentier qu'il avait descendu en 10 minutes au bras de Lucette, il mit une bonne demi-heure à le gravir. « S'il m'arrivait malheur, que deviendrait ma pauvre petite » songeait-il. Enfin, il eut l'impression d'un espace qui s'ouvrait, d'une étendue d'air libre. Plus de buissons, une herbe courte à droite et à gauche. Mais le sentier restait dur, bien battu, bien marqué. Il conduisait au petit mur, comme Pierre s'en souvenait distinctement, et tout alentour, c'était la solitude sonore du pâturage. Plus loin, le mur franchi, il n'y avait que des prés fauchés qu'on avait traversés un peu au hasard, tout en discutant avec Rick, qui tirait à droite, tandis que Lucette voulait aller à gauche. Pierre ne pouvait plus que s'égarer s'il franchissait le petit mur. Il s'arrêta, il écouta pendant quelques minutes. Le vent délicieux de la montagne passait à petits coups d'aile, mais n'apportait d'autres sons que des tintements lointains de clochettes. Se faisant un porte-voix de ses deux mains, Pierre appela, comme il avait entendu les vachers dans les montagnes de Savoie, en syllabes longues sur deux tons. « Oh, eh ! Oh, eh !» De nouveau, il écouta, puis il se décida à crier, en bon français, « Au secours ! Au secours !» Quand on a été alpin, on n'aime pas à crier au secours. Mais il fallait bien, c'était pour Lucette. Pour lui tout seul, il n'aurait crié que « Oh, eh !» Tout à coup, une voix étrange, pas très lointaine, lui répondit. Cela venait d'un peu plus haut, derrière le mur. Cela ressemblait à la voix de Rick, comme subitement éveillée et pleine d'épouvante. « J'arrive, j'arrive !» Pierre entendit des sauts, des pierres qui dégringolaient, des pas qui couraient sur l'herbe dans sa direction. Les bras de Rick l'entourèrent, la tête de Rick se fourra sur sa poitrine. « Tu es seul? Pourquoi? Pourquoi ?» fit la voix haletante. Ah, le soulagement de sentir un être humain là, tout près, des pieds qui pouvaient courir vite, des yeux qui pouvaient guider. « Tu n'es donc pas retourné à la maison ?» demanda Pierre. « Non, j'étais fâché, j'avais du chagrin. Alors, je me suis couché près du mur, j'ai pleuré et puis dormi. Je vous avais suivi un moment. « Tu parleras de ton chagrin plus tard, » dit Pierre assez rudement. « Mademoiselle Lucette a eu un accident. Je cherchais du secours. Maintenant, écoute-moi. Tu vas me ramener aux marches taillées le plus vite possible. Ensuite, tu prendras tes jambes à ton cou, tu courras comme tu n'as jamais couru de ta vie, tu diras à ton père et à Justin de monter ici avec une corde solide sans perdre une minute. » « Mademoiselle Lucette est en danger. »« Faut-il vraiment que tu retournes aux escalettes ?» demanda Rick. « C'est du temps perdu. »« Ne discute pas, garnement !» cria Pierre avec un courroux subit. « Fais ce que je te dis, en marche, au pas accéléré !» Des larmes roulaient sur les joues de Rick, mais il se tut et guida son cousin jusqu'à la première des marches taillées. « Me voici, Lucette, me voici. Êtes-vous là ?» appela Pierre de toutes ses forces. Un cri de joie lui répondit. « Déjà ? Penche-toi un peu, dit Pierre à Ric. Peux-tu voir mademoiselle Lucette ? Plus bas, sur une corniche. Il y a un petit sapin. » Ric, un bon montagnard qui sait s'y prendre, se mit à plat ventre sur la marche, puis s'avança sur les mains, comme un lézard, et bientôt il eut la moitié du corps au-dessus du précipice. « Oui, je la vois, » fit-il au bout d'un instant, ayant porté ses yeux vers la droite. « Elle est en sûreté. Elle est assise, ses pieds pendent, elle a un bras qui saigne, elle se sera écorchée en roulant. » Une horreur subite, inexprimable, l'étreignit. Tout ça, cet accident, cette détresse de Pierre criant au secours, aveugle et tout seul, et ce bras qui saignait, c'était sa faute à lui, c'était son impardonnable crime. C'était son mauvais cœur, c'était son affreuse jalousie. Jamais Pierre ne pourrait l'oublier, jamais il ne pardonnerait. La vie entière s'effondrait autour de Ric, et son ami, son copain, l'avait appelé garnement. Ah, quel châtiment, quelle ruine de l'amitié si belle! C'était fini entre lui et son copain. Tout à coup, dans cette noire désolation, une lueur brilla, faible d'abord, puis éblouissante, telle la mince fusée qui s'épanouit en étoiles et en traits de feu. Il fallait sauver Lucette, tout de suite, par un acte d'énergie, d'héroïsme si possible. Alors, Pierre pardonnerait à son copain. « Il me vient une idée, » souffla-t-il, à moitié étouffé d'émotion. « Reste là, Pierre, surtout ne bouge pas, je reviens dans une minute. » Il descendit 5 ou 6 marches, tourna l'angle du rocher, examina le reste des escalettes, c'est-à-dire une 12aine de degrés, encore plus étroits, mais bordés d'une solide rampe en fer du côté du précipice et d'une main courante du côté du rocher. Il se mit de nouveau à plat ventre, s'avança en dehors sous la barre de la rampe autant qu'il put. Il vit, comme il avait espéré, que la corniche de Lucette continuait et même s'élargissait et tournait l'angle comme un balcon tourne l'angle d'une maison. Juste au-dessous de la rampe, elle cessait brusquement, coupée par une effroyable fissure du rocher. Mais elle allait jusque-là, c'était l'essentiel. Et comme la corniche gardait le même niveau, tandis que l'escalier descendait d'au moins 5 mètres, il s'ensuivait que la corniche et l'escalier étaient bien moins éloignés l'un de l'autre que plus haut. Dès que Ric se fut rendu compte de la possibilité d'accomplir son projet, il revint en quelques enjambées jusqu'à la marche où il avait laissé Pierre, immobile et inquiet. « Ici, à cette place, lui dit-il, même si nous avions une corde, même si nous avions un autre homme pour nous aider, il serait impossible de hisser mademoiselle Lucette. L'escalier est trop étroit. Nous n'avons pas d'appui et pas de recul. Mais plus bas, c'est différent. Je veux bien que les marches sont encore plus étroites, mais il y a une barrière en fer solide et une main courante où l'on peut se cramponner. De plus, la distance n'est pas si grande entre l'escalier et la corniche. La grande affaire, c'est que mademoiselle Lucette puisse se glisser d'où elle est jusqu'au-dessous de la barrière. » Pierre écoutait anxieusement. Le plan que Ric lui développa dans tous les détails semblait faisable. Lucette, d'une voix un peu haletante, demanda des explications. Un malaise, une sorte de nausée commençait à l'envahir. Le soleil la frappait en plein et, derrière elle, le rocher était chaud comme le mur d'un four. « Êtes-vous d'accord ?» « Voulez-vous essayer ?» demanda Ric. « Je ferai n'importe quoi plutôt que de rester ici plus longtemps. Le vertige vient, j'ai mal au cœur, » fit-elle plaintivement. Il lui semblait qu'elle était depuis des siècles collée à cette roche embrasée. Il lui semblait que son petit sapin se penchait, que toute la montagne se penchait au-dessus de l'abîme. D'un violent effort, elle se ressaisit. « Courage, Lucette, courage !» disait la voix de Pierre au-dessus d'elle. « Tout va bien, » cria-t-elle, « je me mets en route !» Oui, Lucette, vaillamment, malgré le vertige, malgré le mal de cœur, se mettait en route, c'est-à-dire commençait lentement à se déplacer sur les 3 rebords où il lui était impossible de se mettre debout. Elle se soulevait un peu sur les mains, trouvait ici et là un point d'appui pour son pied pendant, avançait de quelques centimètres. Ce fut long. Quand il fallut tourner l'angle du rocher, elle crut bien qu'elle allait défaillir. L'abîme au-dessous semblait plus vide, plus menaçant. Pourtant, comme la corniche s'élargissait, la progression devenait moins difficile. Rick s'était remis à plat ventre sur une des marches et suivait des yeux tous les mouvements de Lucette pour les guider de la voie et pour enseigner Pierre. « Encore un demi-mètre et vous aurez tourné le coin. Là, vous y êtes. Ça va magnifiquement, Pierre. Ce buisson, mademoiselle Lucette, ne pourriez-vous pas l'empoigner et vous mettre debout ?»« Il y a un buisson derrière elle, Pierre, et le rebord a bien 1 mètre de large. Maintenant, descendons nous aussi. » « Prends garde, suis le rocher à droite. Compte 6 marches. Nous voici de nouveau juste au-dessus d'elle. » Jamais, depuis qu'il avait perdu la vue, Pierre n'avait senti son impuissance comme en ces terribles minutes. Il comprenait qu'un faux mouvement, un caillou détaché ou le vertige, pouvait d'une seconde à l'autre jeter Lucette dans le vide. Rick était-il assez clairvoyant, assez prudent? Quand il entendit conseiller à Lucette de se mettre debout en se hissant à un buisson, un frisson glacé courut dans ses veines, le paralysa. « Courage, courage » répétait-il machinalement, presque sans savoir ce qu'il disait. « Courage, ma petite Lucette, ma pauvre petite !»« Tout va bien » cria-t-elle de nouveau. Elle recula, toujours assise, s'adossa au rocher, ramena ses pieds qui, jusque-là, avaient pendu dans le vide. Puis, de ses deux mains, elle chercha et saisit un tronc mince qui se dressait derrière elle. « Va-t-il plier ? » cria-t-elle à Rick. « Non, non, c'est dû être. Ne le prenez pas trop bas. » Alors, les deux pieds bien assurés sous elle, ses deux mains bien nouées plus haut que sa tête au petit tronc lisse, son corps jeune et souple tendu comme un arc, Lucette se souleva lentement, se trouva debout, le front dans du feuillage, le visage en face du grand horizon qui l'éblouissait. « Si vous pouvez, cria Rick, vous feriez mieux de tourner le dos au précipice. » Leurs voix étaient plus proches maintenant, Lucette en éprouvait une sécurité, bien qu'il lui fût impossible de voir ses compagnons. Tout doucement, se cramponnant aux branches du petit être en buisson, elle fit un demi-tour et se trouva face au rocher. Elle leva la tête, elle vit la figure de Rick qui s'avançait sous la rampe de fer. « Pouvez-vous rester comme ça 2 minutes ? » demanda-t-il. « Ne t'inquiète pas, Pierre, tout va pour le mieux. Mademoiselle Lucette est debout. Elle se tient solidement aux branches. Ce petit arbre nous aide beaucoup. Passe-moi ton couteau, veux-tu ? Il a une lame de scie, je crois. »« Que vas-tu faire ? » demanda nerveusement le jeune soldat. « Tu vas voir, » fit Rick qui tendait la main vers le couteau. « Voir ?» répéta Pierre avec une amertume qu'il n'avait pas souvent ressentie. La main courante fixée dans le rocher à droite était une corde pas très grosse qui courait dans des anneaux à pitons. Rick eut bien vite fait de la scier à l'un des bouts, de la faire sortir des anneaux et de la transformer en un grand nœud coulant, tout en expliquant à Pierre la suite de son plan. « Donne-moi cette corde, » dit Pierre qui la mesura sur son bras. « Il y en a 7 mètres à peu près. » Le nœud coulant en prend presque 2. À l'autre bout, je vais faire de distance en distance 3 gros nœuds pour que nos mains aient de la prise. La corde est assez longue, tu crois ? Oui, je le crois. Mademoiselle Lucette est debout. Ça fait une différence d'un bon mètre. Elle peut s'aider du buisson pour s'élever. Elle trouvera peut-être un trou pour ses pieds. Toi et moi, nous avons la rampe de fer devant nous qui nous empêchera de perdre l'équilibre quand nous commencerons à tirer. La corde devra-t-elle passer par-dessus la rampe ou par-dessous ? Par-dessous, dit Pierre. Autrement, nous perdrions de la longueur. Nous n'en avons pas trop. Le nœud coulant est solide, au moins. Il ne risque pas de se défaire. De ses mains, il le tâtait et le tirait vigoureusement. Il chercha la rampe, la saisit, la secoua. Ça ne bouge pas plus que le rocher lui-même. « Êtes-vous bientôt prêt ?» demanda Lucette. « Vos 3 minutes sont longues, vous savez. Passez-moi du moins le journal pour me distraire, » ajouta-t-elle avec un petit éclat de rire. « C'est pour moi, ce ton crâne, cette pauvre petite plaisanterie, » pensa Pierre, dont le cœur se serrait d'angoisse et de pitié. « Elle veut que je ne comprenne pas. Elle est à 2 doigts d'une mort affreuse. » Elle rit, la brave enfant. Je n'ai pas été plus brave que ça dans la tranchée. Ah, s'il avait pu la voir, il n'en eût pas pensé moins. L'effort de se tenir cramponné, tout en luttant contre la nausée et contre la peur, faisait rouler des gouttes de sueur sur le front et sur les joues enflammées de la jeune fille. Tous ses membres se raidissaient. Ses genoux, par moments, étaient sur le point de fléchir. La large écorchure de son bras commençait à lui causer une douleur cuisante et sa manche de batisse était marbrée de grandes taches rouges. Chaque seconde lui paraissait une minute et chaque minute une heure et elle défaillait presque en devinant que l'instant même du sauvetage serait encore plus périlleux que la situation actuelle. Allait-il donc falloir se suspendre au bout d'une corde, abandonner la corniche qu'au moins son pied sentait, s'abandonner aux mains faibles de Rick, aux mains de pierre plus robustes, mais que les yeux ne guidaient pas. « Nous sommes prêts, » dit enfin Pierre. Elle le vit, car il se penchait au-dessus de la rampe de fer. Instantanément, comme par miracle, sa panique disparut. Cette figure résolue, ses deux mains serrées autour de la corde, lui inspirèrent une confiance absolue et même une sorte de gaieté un peu folle, comme on éprouve quand tout le sang figé recommence à circuler. « Vive les Alpins !» cria-t-elle d'une voix légère qui résonna contre le rocher. « Attention, » dit Rick, « le nœud descend. Ne le laissez pas s'embrouiller dans les branches. Passez-le sous vos bras. »« Respirez d'abord, » dit Pierre, « dilatez bien vos poumons afin que la boucle ne vous gêne pas trop. » Ce n'était pas facile, tout en entourant le petit être d'un bras, d'attraper la boucle de l'autre main, de la faire passer sur sa tête, autour de ses épaules, sous ses bras. Lucette y réussit pourtant. « J'y suis, » dit-elle, « vous pouvez tirer. Cherchez des appuis pour vos pieds. Avec vos mains, empêchez le nœud coulant de se déplacer. Tenez votre visage éloigné de la paroi qui pourrait vous blesser, » recommanda Pierre. « Je vais compter. À trois, soyez prêtes. » Solidement campés l'un près de l'autre, Méric un peu en avant, afin de voir par-dessus la rampe et de signaler les obstacles, ils rassemblaient leurs forces pour l'instant difficile. Une, deux, trois. Lucette se sentit perdre pied. Elle était hissée maintenant dans les branches, elle montait vers la roche nue, vers la rampe, vers le salut. La corde dure se serrait autour de son buste frêle, la meurtrissait, mais elle ne songeait qu'à maintenir autour d'elle ce nœud sauveur. Ses pieds rencontrèrent une saillie, s'y posèrent, prirent un élan. Son front fut bientôt à la hauteur de la dalle. Mais n'ayant plus d'appui, elle oscillait. Nœud après nœud, ses deux compagnons allaient la corde. Cette dernière minute fut la plus cruelle. Le corps de Lucette était entièrement suspendu, tandis qu'une de ses mains battait l'air, cherchant à saisir quelque chose. « Penche-toi, Pierre, avance une main !» fit Rick haletant. « Je ne lâche pas la corde, n'aie pas peur !» Pierre comprit. Avec une force décuplée, il tint la corde d'un seul bras, allongea l'autre. Des doigts incertains l'effleurèrent. Il saisit un poignet, un bras mince. « Prends-lui l'autre bras si tu peux, sans lâcher la corde !» ordonna-t-il à Rick. Les yeux dilatés de Lucette, sa tête échevelée, ses épaules, le nœud coulant apparurent. Elle se courba sous la rampe, réussit à mettre un genou sur le rebord, et c'était la fin du cauchemar, le sol ferme de tout le monde l'accueillait, la rassurait. Moitié riant et moitié sanglotant, elle se laissa tomber sur une marche. Elle était à bout d'effort, il lui semblait avoir tous les membres brisés.